Merci. Quelques remarques de Vladimir Andreev.
Bon, elles seront brèves, je l'espère, parce que je n'ai aucune des références ou des compétences de mes prédécesseurs. Je n'ai pas fait de rapport sur l'enseignement supérieur. Je ne suis pas employeur et je ne suis pas directeur du FR. Donc, la seule chose que je peux vous livrer, c'est les difficultés que j'ai vécues pendant 38 ans, la même durée que Jean-Luc Diafard, je crois, face à cette dichotomie que tout le monde reprend ici entre enseignement et recherche, et peut-être aussi une autre série de difficultés venant de l'évolution de la science économique pour un vieux professeur que je suis, qui n'a pas été formé du tout comme les tout jeunes sont formés. Alors, la première grande difficulté que j'ai rencontrée, en répondant au thème de notre réunion, comment innover? Alors, comment innover dans l'enseignement, en sciences éco? Eh bien, il y a d'abord une réponse très technique que je n'aime pas, même si je l'ai parfois pratiquée, c'est on recourt à l'audiovisuel, on va recourir à des jeux, on va recourir éventuellement à l'économie expérimentale pour faire passer un peu mieux des choses un peu compliquées. Mais personnellement, j'ai une autre vision de l'innovation d'un cours, sur mon cours, tenir mon cours à jour, c'est innover. C'est-à-dire, c'est aller lire chaque année, chaque mois, les derniers articles publiés sur mon sujet. Et c'est là que se trouve une difficulté. Les publications que je suis amené à lire au bout de 38 ans sont devenues souvent d'une complexité technique, mathématique, parfois même conceptuelle, très très difficile. Il faut s'adapter, il faut travailler énormément pour s'y adapter. Alors, je ne sais pas si j'ai bien rempli cette mission, mais je me souviens, il y a quelques années, des étudiants normaliens un peu retors avaient publié un petit rapport, ou enfin avaient exprimé des vœux sur la manière d'enseigner un cours, et ils étaient venus me voir en disant: Monsieur Andreev, on aime bien votre cours, et bon, on va essayer de discuter pourquoi. Et ce qui était ressorti de ça, et vous allez voir que c'est très difficile de le faire aujourd'hui avec l'évolution de la science économique, c'est que je m'efforçais, sur les sujets que je traitais, sur chaque question, de rappeler l'histoire de la question, des faits qui avaient engendré cette question, puis comment la théorie s'était emparée de cette question, puis la présentation des instruments statistiques, économétriques ou autres qui permettent de la traiter aujourd'hui, présentation des résultats et éventuellement évaluation critique des résultats. Vous pouvez imaginer qu'avec l'évolution de la science économique d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire ça dans un cours de 20 heures, et là je rejoins complètement Jean-Luc Diafard, vous ne pouvez pas faire ça sur un cours de 20 heures sur un grand nombre de questions. Donc, soit vous faites un cours squelettique en termes de thématiques et vous tenez mon plan de cours, soit vous êtes obligé d'avoir un très long cours. Alors, ça, c'est une première difficulté. La deuxième difficulté que j'ai ressentie aussi, bien souvent, est la suivante. Ayant participé à des commissions de spécialistes de recrutement diverses et variées, j'ai toujours considéré comme absolument normal que nous recrutions à l'université des individus jeunes qui sont à la pointe de la recherche. Bon, ça nous garantit quoi? Ça nous garantit que justement pour eux, c'est moins difficile que pour moi de réaliser cette tâche, de se maintenir à jour sur les derniers articles, parce qu'en général, ils les ont lus pour faire leur propre recherche. Donc ça, c'est normalement pour eux plus facile et il faut recruter ce genre d'individus. Mais il y a un mais tout de même, c'est que nous recrutons désormais dans les universités, depuis des années, les meilleurs sur des critères de qualité de la recherche. Est-ce que ceci nous offre des garanties quant à leur qualité en tant que transmetteurs, comme aptes à transmettre, à donner l'accès le plus facile possible à cette pointe de la recherche vers nos étudiants? Et en particulier, je pense aux étudiants du premier cycle. Nous ne testons pas ça, nous testons de moins en moins cela. Et la troisième difficulté que j'ai rencontrée, c'est ce dont on se plaint souvent, nous, quand on parle entre enseignants, c'est l'hétérogénéité de nos amphithéâtres. C'est-à-dire, nous avons des étudiants forts, nous avons des étudiants faibles, nous en avons entre les deux. Et avec l'évolution de la science économique que je rappelais il y a un instant, il y a une très grosse difficulté pour certains étudiants à s'adapter à nos cours. En tous les cas, dans les cours de premier cycle. Et donc, le troisième problème qui se pose après le recrutement des enseignants, c'est le recrutement des étudiants. Quels étudiants voulons-nous? Alors, si on veut les adapter même à une version soft des derniers progrès de la science économique, il n'est pas certain que nous devions recruter les étudiants que nous recrutons. Il est bien possible qu'il nous faille recruter des étudiants qui ont une formation plus techniquement forte. Donc vous voyez, vous pouvez imaginer les implications. Alors de tout cela, je tirerai, de mon expérience personnelle, je tirerai trois brèves conclusions. Je pense qu'une première tâche prioritaire, c'est surtout ne pas casser la relation entre recherche et enseignement. Je rejoins tout à fait Jean-Luc là-dessus. Et je crois que dans des projets de décret qui circulent, j'ai des inquiétudes parce que si l'on veut envoyer dans l'enseignement, enfin faire plus d'enseignement à ceux qui sont moins bons dans la recherche, on va vers une catastrophe. Je dirais qu'à la limite, c'est l'inverse. Il faudra envoyer, enseigner les meilleurs chercheurs parce que normalement, c'est eux qui devraient être les meilleurs pédagogues maîtrisant le mieux leur sujet. La deuxième remarque que je ferai, c'est que probablement à l'université, on ne s'est pas assez préoccupé de la formation des formateurs, c'est-à-dire de ma formation quand j'étais assistant, quand je suis devenu prof. Un prof devient agrégé, on le met dans un amphi de 500 étudiants et il fait son cours, il se débrouille. Moi, je trouve ça, c'est dramatique souvent pour les étudiants. Je pense qu'il faudrait réfléchir davantage à former les formateurs, non pas en tant que scientifiques. Nous nous donnons les garanties qu'ils sont de bons scientifiques par nos méthodes de recrutement. Nous ne donnons pas les garanties qu'ils sont de bons formateurs. Et le troisième point, je rejoindrai tout à fait Jean-Luc Gaffard sur le point suivant, je suis partisan de cours longs, à condition que ce ne soit pas la seule méthode pédagogique, ça va être complété par des enseignements participatifs, l'audiovisuel, etc. Mais le cours long est le seul qui permette de développer une pédagogie où on fait le tour d'une question. Le tour d'une question était ce que je discutais avec les étudiants normaliens. Voilà, merci.
Merci Vladimir. Avant de vous donner la parole, André, tu fais quelques remarques. André Cartopanis, qui est d'ailleurs celui qui a organisé ce panel.
Oui, je voudrais, avant de formuler une ou deux remarques, rappeler le contexte dans lequel nous avons souhaité que ces entretiens portent cette année sur la question des innovations dans la formation des économistes. C'est parce que nous sommes un certain nombre, soit à l'AFSE, soit au sein de la conférence des doyens, soit encore dans d'autres instances, à être inquiets devant la place qui est celle des formations de sciences économiques en France. Parce que ces formations sont menacées. Et elles sont menacées sous différents volets. D'abord, compte tenu d'un manque d'attractivité qui s'est traduit à la fois par un tassement des effectifs étudiants et surtout par un effondrement de la qualité des étudiants qui désormais se dirige vers les études de sciences économiques. Problème également d'attractivité qui se pose du point de vue de l'image qui est celle de nos formations, non seulement parmi les enseignants dans l'enseignement secondaire, mais également parmi un certain nombre d'employeurs potentiels. Et donc il y a cette impression que les choses ne peuvent pas rester en l'état. Deuxième source de menace, c'est, il faut quand même un peu en parler, le conflit entre deux professions en France, que sont les économistes et les gestionnaires, qui aujourd'hui ne cessent de se heurter dans des procédures d'habilitation de diplômes ou bien dans l'obtention de moyens, notamment en matière de moyens sous la forme de postes d'enseignants-chercheurs. Et donc, on est là dans un ensemble qui, du coup, a conduit un récent directeur de l'enseignement supérieur à échafauder un scénario dans lequel tout ce qui correspond à ce que nous appelons aujourd'hui les études de sciences économiques serait offert sous le label d'études de sciences de gestion, avec évidemment de l'économie à l'intérieur de ce type de cursus, de l'économie qui également serait offerte dans les écoles d'ingénieurs, dans les formations juridiques, mais en tant que telles, les études de sciences économiques ne pourraient déboucher que sur le marché académique, d'où ce qui a été évoqué par Jean-Luc tout à l'heure, peut-être que deux pôles en France seraient ce faisant bien suffisants pour pouvoir satisfaire ce type de marché. Il correspond d'ailleurs à une dernière proposition, il y a trop de docteurs en sciences économiques en France, compte tenu du type et du nombre de débouchés purement académiques qui est dans la tête de ceux qui formulent ce type de jugement. Alors, c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité que cette discussion soit menée avec un certain nombre de personnalités d'experts qui ont donné leur point de vue. Alors, je voudrais, après avoir rappelé ce contexte, formuler deux remarques. La première sur la question de la professionnalisation des études universitaires en sciences économiques et la seconde sur le problème des rapports entre l'économie et la gestion. Alors, sur la professionnalisation, je considère pour ma part que, sans que l'on y prenne garde, nous nous sommes laissés enfermer dans une définition étroite de la professionnalisation des études universitaires en général et des études de sciences économiques en particulier, en considérant qu'il fallait développer de façon beaucoup plus marquée les enseignements techniques, l'apprentissage d'un certain nombre de techniques opératoires, l'apprentissage, par exemple, pour faire simple, de la comptabilité, des méthodologies de choix de projet. Et donc, c'est installé dans l'esprit de beaucoup une supposée contradiction entre, d'un côté, l'enseignement ayant une capacité professionnalisante et la recherche. Je pense que sur ce plan, nous pourrions nous montrer beaucoup plus offensifs en indiquant que c'est là une idée fausse. Car une formation universitaire qui s'appuie sur la recherche s'appuie simplement sur la plus belle pédagogie qu'on a inventée depuis plusieurs siècles, qui est d'initier à la réflexion. Et la recherche est le mécanisme par lequel nous parvenons à former des intelligences qui s'appliquent dans le domaine économique et qui, ce faisant, professionnalisent les enfants qui viennent à l'université, qui deviennent progressivement autonomes sur le plan intellectuel, et dont nous n'avons pas à avoir en quelque sorte honte de donner un rôle fondamental à la recherche dans la façon dont nous organisons nos enseignements. La dimension technique, eh bien, les étudiants, les diplômés pourront très très vite l'acquérir, hein, et sans que l'on ait besoin de donner une place très importante à cette dimension-là dans nos cursus. J'ajoute que, sous l'autorité notamment de Jean-Luc Gaffard, j'ai été amené à évaluer à une époque pas mal de diplômes dits professionnalisés de niveau Bac plus 5, où justement cette dimension technique nous ramenait sans doute à du Bac moins 2, du point de vue de ce que l'on ajoutait comme complément aux formations fondamentales. Alors, ça ne veut pas dire que pour mieux professionnaliser en étant ancré dans la recherche, eh bien, il convient de ne rien changer à nos usages. Je vais revenir tout à l'heure sur le problème donc, des rapports avec la gestion, mais les gestionnaires peuvent nous donner des leçons quant à la façon avec laquelle eux-mêmes, ils ont pu mettre en place de nouvelles méthodologies d'apprentissage, non pas simplement de contenu, mais de savoir-faire. Le développement des approches en termes d'études de cas, le développement des jeux de simulation d'entreprise, le développement d'un certain nombre de types d'approches d'apprentissage, eh bien, cela a évolué chez les gestionnaires, pas chez nous. Je pense que nous avons besoin de travailler un petit peu autrement, et les grands amphis de 800 étudiants dont parlait Alain tout à l'heure, c'est sûr que ce n'est pas réellement le meilleur moyen pour pouvoir permettre aux étudiants de s'approprier et de mettre en œuvre un savoir. Et en particulier, ça aurait aussi un enjeu budgétaire. Nous n'oublions pas que les études de sciences économiques, du point de vue de l'affectation des moyens, sont rangées dans la même catégorie que le droit. Et donc, en termes finalement de moyens par étudiant, on a beaucoup moins que ce que nous aurions si nous étions rangés dans les sciences dures, en informatique, en biologie, où justement le poids des apprentissages, des exercices, des petits séminaires en TD, etc., en TP, est beaucoup plus développé. Donc, pour me résumer sur ce premier volet, soyons plus offensifs, sans pour autant mettre en cause ce caractère prégnant de la recherche dans les formations universitaires. Deuxième sujet, c'est les rapports entre l'économie et la gestion. Bon, il est assez évident aujourd'hui que, notamment dans le domaine de la finance, cette distinction n'a plus aucun sens. On ne peut pas aujourd'hui, si l'on définit des intitulés de diplôme, non pas par rapport à ce que sont les spécialistes qui vont y enseigner, mais par rapport aux métiers vers lesquels les étudiants diplômés pourront se diriger, cela n'a aucun sens de distinguer d'un côté formation économie de la finance et formation gestion de la finance, pour faire simple. Alors, de ce point de vue, moi, je pense que nous devrions désormais entamer des négociations avec les gestionnaires pour voir ce que l'on peut faire. Soit il y a une possibilité d'avancer, de trouver des médiations et des compromis avec les gestionnaires. Chacun sait que sur tous les diplômes, il y a de façon régulière des affrontements dans les expertises et dans les arbitrages du ministère sur tous nos cursus. Ou bien nous arrivons à trouver un compromis, ou bien nous devons redevenir beaucoup plus offensifs et réutiliser notamment tous les termes que les gestionnaires nous interdisent d'employer. Il faut savoir que le mot management ou le mot firme ou le mot entreprise, d'une certaine manière, devrait être interdit aux économistes dans les intitulés de diplôme. Bon. Donc, s'ils ne sont pas prêts à avoir ce type de compromis avec nous, eh bien, il faut que nous devenions beaucoup plus offensifs que nous l'avons été. C'est une autre idée que je soumets un petit peu à l'Assemblée. Merci.
Merci, André. Bien, il y a dans la salle beaucoup de gens qui ont des expériences considérables en matière d'enseignement d'économie. Donc je ne propose pas qu'on fonctionne sous une forme classique de questions venant de l'auditoire et de réponses venant de la tribune, même si je redonnerai la parole à Jean-Luc et à Alan à la fin. Je vous propose que ceux d'entre vous qui souhaitent intervenir, faire des remarques, faire part de leur expérience, donner des indications sur le sujet, le fassent successivement. Et c'est simplement à la fin que je pense que je redonnerai la parole à la tribune. Qui souhaite intervenir pour faire part de son expérience? Démarrons par la Suisse, alors.
J'étais très impressionné par les conférences qui ont été données, et elles confirment ce que j'ai toujours pensé, ce que je pense depuis des années, que la science économique est en effet dans une situation très difficile. Et peut-être, c'est difficile de présenter quelque chose de complexe en peu de temps, mais je crois un point de départ pourrait être que David Ricardo, dans le temps, a écrit « On the principles of political economy ». Et Marshall, plus tard, a écrit « On the principles of economics ». Et dans le temps de Marshall, l'économie politique était encore intégrée dans les sciences morales. En Allemagne, vous aviez les sciences de l'État, où toutes les sciences sociales et politiques étaient ensemble dans une seule faculté. Et Alfred Marshall a séparé l'économie des sciences politiques, des sciences morales, pour en faire une faculté des sciences économiques. Il y avait des oppositions violentes dans le temps. Et c'est pour ça qu'à Cambridge, on a décidé de ne pas appeler la faculté seulement Faculty of Economics, mais Faculty of Economics and Politics. Et seulement pour dire, le politics a disparu entre-temps. Après la Deuxième Guerre mondiale, la spécialisation dans les sciences sociales s'est imposée d'une façon irrésistible. Et la vision de l'ensemble, comme elle était encore présente au XIXe siècle, elle a complètement disparu. Pourtant, je pense que dans les pays germaniques, Allemagne, Suisse, Autriche, cette tradition des sciences sociales et politiques s'est maintenue encore longtemps après la Deuxième Guerre mondiale. Pardon. Et je voudrais illustrer par un exemple concret les effets que la spécialisation a eu lieu après que l'éclatement des sciences sociales et politiques. Un manager suisse éminent, Marc Moret, c'est l'homme qui était directeur général de Ziba Geigy et qui a fait Novartis. C'était un des managers les plus éminents d'Europe. Il a étudié dans les années 50, il a fait des études rerum politicarum, c'est-à-dire il a étudié l'économie politique, le droit, philosophie de droit, sociologie, sciences politiques. Et avec ça, avec ce bagage, il est devenu un des managers les plus éminents d'Europe. Il y a quelques temps, Swissair, notre magnifique...
C'est pas pour vous empêcher de parler, mais il faudrait que vous raccourcissiez.
Pardon, oui. Je vais pas très... Swissair a fait faillite. Et des économistes suisses expérimentés ont dit une raison pour laquelle Swissair a fait faillite, c'est la mauvaise formation de nos managers maintenant. Ils sont trop spécialisés, ce sont devenus des technocrates. Et il y a des professeurs d'économie politique qui ont dit dans leur cours, si on avait mis 20 paysans dans le conseil d'administration de Swissair et dans le management, Swissair serait encore aujourd'hui une ligne aérienne florissante. Ce que je vais dire, il faut revenir à l'ancien système où on considère l'État, la société et l'économie dans son ensemble. Il faut revenir aux sciences sociales et politiques, compléter ces sciences sociales et politiques par la bonne théorie économique comme elle s'est développée depuis Adam Smith et toute la théorie. Non seulement Walras et Marshall et élaboration, mais aussi Keynes, Marx et surtout François Quesnay, qui me semble un des tout grands économistes politiques. Alors, revenir à l'ancien système, faire par exemple un bachelor en sciences sociales et politiques, et après on peut faire un master en droit, en économie politique, en sciences politiques, en sociologie. Ce seraient des gens qui auraient une vision globale, qui pourraient parler entre eux, parce que je pense franchement, maintenant, avec le système que nous avons, nous allons tout droit vers la catastrophe. Et nous sommes déjà allés vers la catastrophe.
Merci. Une intervention un peu pessimiste, je vous en prie, monsieur.
Oui, Dominique Thiébaud, doyen de la faculté de sciences économiques et de gestion de Paris 12 et vice-président de la conférence des doyens de sciences économiques et de gestion. Pour rebondir sur ce que disait Pierre-Charles Pradier, mais ce que disait aussi André Cartapanis, si on dit qu'il faut effectivement aujourd'hui former 50% d'une classe d'âge au niveau de l'enseignement supérieur et notamment au niveau de la licence, si on dit que dans le domaine qui nous concerne, cet effet de masse va impacter, comme on dit, donc les facultés de sciences économiques et de gestion, alors on ne peut pas faire l'impasse, comme disait André Cartapanis, sur la forme de balkanisation donc, qui s'est opérée dans le domaine, avec notamment effectivement le problème, ce n'est pas le seul, mais le problème des formations de gestion. Il y a en outre effectivement une répartition des étudiants qui fait que si on reprenait ce que disait Vladimir Andreev, non seulement effectivement le public est hétérogène, non seulement il est difficile d'enseigner ce qu'on va enseigner à un certain type de public, mais il y a une espèce de loi de Gresham qui se met en place, c'est-à-dire que les mauvais élèves, les mauvais étudiants, relatifs, mettez des guillemets, chassent effectivement les bons et chassent les bons dans effectivement d'autres structures que l'on connaît, donc en l'occurrence permettant la sélection. Donc tout ça fait que pour pouvoir répondre à la demande sociale, type celle qui était avancée notamment par Patrick Artus, je crois qu'effectivement donc il y a exigence. J'irais de poser des questions fortes. Et je signale que la conférence des doyens réunie aujourd'hui à Lyon, donc en rapport avec les journées de l'économie, a pris une motion et demande que le ministère mène une réflexion et nous associe sur une proposition de type création d'instituts d'économie et de management au sein des universités. Parce que si on laisse faire, eh bien effectivement, les IAE trouveront des accords avec les écoles de commerce à l'extérieur et le phénomène sera encore renforcé. Donc il faut effectivement aujourd'hui poser la question de structures institutionnelles qui permettraient de répondre à la demande sociale, de répondre à cette balkanisation et de répondre donc à l'enseignement d'économie de masse tel qu'il est posé aujourd'hui en France.
Merci beaucoup. Je vais moi-même faire deux remarques, bien que je ne sois certainement pas la personne la plus compétente sur le sujet qu'on discute aujourd'hui, mais elles me paraissent quand même utiles à faire. Premièrement, sur De quoi parle-t-on quand on parle de la massification? Il y a beaucoup d'ambiguïté, je trouve, derrière ce terme. Parce qu'on dit, une chose et en même temps, on n'est pas loin par moment de dire son contraire exact. À peu près, suivant les années, entre 34 et 37% des bacheliers vont à l'université en France. C'est peu. C'est peu. Ce sont des chiffres qu'on cite rarement, mais c'est quand même des pourcentages qui sont relativement peu élevés. Alors pourquoi est-ce que la situation est celle-là? Ben, pas parce que d'abord le bac général n'est qu'une partie finalement assez réduite de l'ensemble des baccalauréats. J'ai bien dit par rapport au bachelier. Si on faisait par rapport à la génération, ça serait encore beaucoup plus petit. Hein. Donc le bac général est une partie relativement réduite des bacs. Et puis on sait très bien qu'il y a un certain nombre de concurrences, les classes préparatoires aux grandes écoles elles-mêmes, les IUT, les sections de techniciens. Et puis ce phénomène qui n'est pas sans intérêt, me semble-t-il, mais qui soit peu étudié, qui est le phénomène des petites écoles, qui sont d'ailleurs y compris mal suivies sur le strict plan statistique, ce qui fait que quelquefois, dans les statistiques qui sortent du ministère de l'Éducation nationale, elles n'apparaissent pas totalement. Mais il suffit de voir avec nos amis, avec nos milieux familiaux, pour voir à quel point les petites écoles, dans la période récente, surtout dans un certain nombre de secteurs, le commerce, le secteur parasocial, etc., ont pris une importance tout à fait considérable. Donc, est-ce que l'université se massifie quand on est à des pourcentages de ce type? Il faut bien réfléchir avant d'utiliser les mots. Bon. Et puis, à l'intérieur même de ceux qui vont à l'université, l'économie n'est pas particulièrement dans une situation de gain de part de marché. Je comprends même qu'un certain nombre d'universités ont même plutôt le problème inverse, c'est-à-dire que quelquefois, elles se demandent un peu comment elles vont recruter. Je ne dis pas que la massification est un faux problème, parce que le fait d'avoir un public très, très hétérogène, à la fois dans ses caractéristiques, dans ses attentes, un manque de moyens dans un certain nombre de cas, ça pose bien des problèmes de type massification. Mais enfin, on ne peut pas dire que ni l'université dans son ensemble, ni les universités d'économie plus particulièrement, sont particulièrement confrontées à un afflux qu'on aurait beaucoup de difficultés à gérer. Deuxièmement, une deuxième remarque, c'était simplement pour dire que j'étais assez d'accord avec ce qu'avaient dit André et Patrick sur le fait que la discipline à laquelle nous formons dans les universités est une discipline qui a potentiellement des utilisations considérables dans les entreprises et dans la vie économique. De ce point de vue-là, il faut que nous méfions de la façon dont nous pouvons par moment présenter notre discipline qui peut faire croire que nous la définissions de façon si restrictive que, justement, on pourrait penser qu'elle ne conduit plus qu'à la recherche, ce qui serait évidemment une restriction absolument considérable, parce que même en ajoutant à la recherche académique tout ce qui peut ressembler à la recherche dans les entreprises, ça fera quand même pas énormément de gens. Moi, je suis absolument d'accord avec ce qu'a dit Patrick, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'endroits dans les banques et probablement dans les entreprises, même si lui et moi nous connaissons moins bien, où il y a besoin de connaissances économiques de haut niveau, finalement pas très éloignées de celle qui est utilisée parallèlement dans la recherche académique, simplement pour faire correctement son travail. Et donc, potentiellement, il y a une possibilité, à condition qu'on se considère nous-mêmes comme suffisamment ouverts et qu'on soit prêt à présenter nos formations de cette façon-là, je pense qu'il y a une possibilité qu'on puisse faire considérer nos formations comme étant des préparations normales à un spectre extrêmement large de formation. Qui souhaite la parole ? Oui.
Bon, je suis enseignant du secondaire en sciences économiques et sociales. Je ne sais pas si je peux prendre la parole dans cette assemblée. Mais je voudrais vous interpeller sur deux choses. Quand on rencontre nos élèves suite à leur démarrage d'études dans vos sections, la première chose qu'ils nous renvoient en général, c'est le côté décalé par rapport à l'intérêt pour les problèmes de société et les problèmes économiques qui touchent la société, qui les ont poussés à aller dans vos sections, et dans lesquels ils ne trouvent pas de réponse, en tout cas dans les premières années. Et c'est très difficile pour nous de leur dire, il va falloir que vous soyez patient pour vous donner les outils suffisamment solides pour ensuite retrouver le plaisir de gérer ces problèmes-là. Et c'est ce qui, à mon sens, pose un problème, parce que si j'ai bien entendu en filigrane ce que vous disiez, les techniciens dont vous parliez, c'est avant tout des mathématiciens. Et les gens qui vont faire des études de sciences aujourd'hui, en tout cas en filière scientifique au lycée, ne sont pas forcément des gens intéressés par les problèmes économiques et sociaux. Et on arrive à un paradoxe, c'est que ceux que vous considérez comme potentiellement les meilleurs économistes sont en fait des gens qui sont intéressés par les mathématiques et non pas par l'économie. Et c'est quand même assez curieux d'être dans cette contradiction-là, de dire les gens qui sont véritablement intéressés pour comprendre les problèmes économiques dans toute leur diversité ne trouvent pas de plaisir intellectuel, j'emploie le mot, dans les sections dans lesquelles ils vont quand ils vont à l'université. Et un des éléments qui me paraît potentiellement porteur d'innovation, c'est de s'intéresser à ce que disent les sciences de l'éducation. Il y a dans vos universités des universités de sciences de l'éducation. Et ce qu'elle pourrait apporter, c'est de faire le lien entre l'appropriation des savoirs par l'étudiant et le cours magistral. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut arrêter les cours magistraux, loin de là, à l'université, ils sont amplement nécessaires. Mais si on veut que les étudiants retrouvent le plaisir de la compréhension, il faut qu'à côté, dans les TD par exemple, on les amène à s'emparer par eux-mêmes de certaines expérimentations, de marchés locaux, etc., ce qui a été évoqué, pour que... ils deviennent des intellectuels en formation, mais qu'ils trouvent ce plaisir de la démarche intellectuelle qu'à mon avis ils perdent entre le lycée et les premières années d'université.
Merci. Jean-Paul Paulin.
Merci bien. Oui, je voulais réagir à ton premier point, Jean-Michel. Quand tu parles de massification, je crois que tu as fait exprès de ne pas vouloir comprendre ce que nous mettons derrière massification. C'est-à-dire, ce qui est vrai, c'est que nous nous trouvons maintenant devant des publics étudiants qui posent problème. Et ce n'est pas une question de concurrence des autres filières. C'est en fait que nous sommes la seule filière de l'enseignement supérieur à laquelle on refuse la sélection. Au fond, on vient à l'université une fois qu'on n'a pas été pris en classe prépa, qu'on n'a pas été pris en IUT, qu'on n'a pas été pris en BTS dans un certain nombre de cas, et qu'on n'a peut-être pas les sous pour aller dans les petites écoles dont tu parles. Donc c'est évident, derrière nos interrogations, il y a quand même en partie beaucoup ça. Donc c'est bien vrai qu'il y a un problème de massification. Et sur ton deuxième point, je crois quand même que Patrick exagère un peu lorsqu'il dit que le marché des économistes de banque en dehors du tien, de Natixis, on ne le connaît pas beaucoup, quoi. Hein. C'est toi qui fais 90% du marché, quoi. Bon, mais si. Oui, non, mais on s'en occupe. Et donc, en fait, je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de postes qui demandent des études d'économie aussi poussées que tu le soutiens. Je crois plutôt ce que dit Jean-Luc, c'est-à-dire que, de fait, une grande partie de nos étudiants intègrent des postes de cadre dans les entreprises et les administrations et aussi dans les banques d'ailleurs, mais dans les banques c'est moins sur les moi ce que je vois dans mon université, hein, c'est moins sur les postes assez pointus que tu évoques que dans des postes un peu banalisés où ensuite effectivement ils feront carrière, quoi. Donc c'est vrai que on a ce problème de relations entre nos filières de formation et les filières de gestion que distinguent d'abord des appellations et puis évidemment pour reprendre une expression qui apparemment a fait flotte, un problème de niveau.
Jean-Luc et Patrick, vous réagissez un peu.
Non, j'avais une réaction par rapport à ce qu'a dit notre collègue des lycées. Là. Bon, je me suis occupé des programmes avec beaucoup de soin il y a quelques années et je crois que je me suis retrouvé un peu de votre côté. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas des points de vue critiques. Et donc, quand vous dites les étudiants, quand on les voit après, ils nous disent on est décalé. N'oubliez pas quand même que nombre d'entre vous expliquent aux étudiants qu'il ne faut pas qu'ils aillent en sciences économiques parce qu'ils vont être décalés, parce que c'est trop formel, etc. Donc là, il faut être un peu plus attentif à ce qui se passe dans les relations entre les lycées et l'université. Je crois qu'on a une tendance à donner une image de ce qui était fait à l'université qui n'est pas bonne, qui est fausse et qui est en plus devenue de plus en plus fausse avec l'effort qui a été fait suite à différentes campagnes, disons, problèmes qu'on a rencontrés. D'autre part, je vais passer quand même pour un vieil imbécile, mais après tout, c'est ça, mais moi, je ne pense pas que l'acquisition du savoir, c'est forcément toujours un plaisir. Le plaisir, c'est au bout. Et donc, il faut savoir faire des détours, et les détours, ce n'est pas commode. Hein. Donc, je crois que ça aussi, il faut l'enseigner de quelque manière aux étudiants, et donc... quand ils arrivent à l'université, c'est une autre façon de faire. Moi, je plaide tout à fait pour la manière de faire dans les lycées, en réalité. Je pense même, contrairement... Il faut quand même que je critique un peu, mais il est parti, Roger. Je pense que parler de mondialisation, c'est très, très bien dans les lycées, etc. On n'a pas besoin de leur apprendre forcément les méthodes de base. J'ai fait de l'histoire au lycée, on n'apprenait pas la méthode historique. Donc, je suis plutôt pour. Peut-être j'ai tort, mais je suis plutôt pour. Par contre, quand on arrive à l'université, là, il faut changer de braquet. Et ce n'est pas facile. Mais il faut que les étudiants acceptent que ce n'est pas facile. Au demeurant, moi, je constate que les étudiants qui ont été bien formés dans les lycées, ben, ça se passe très bien. Il n'y a pas de problème. Tout à fait. D'ailleurs, vous l'avez dit vous-même, ils réussissent assez bien dans le système. Bon, peut-être j'interviens. Enfin, je voulais parler, mais peut-être c'est plus tard, sur la question de la massification. Parce que moi, je n'ai pas tout à fait les mêmes chiffres que toi. Donc, comme on avait notre collègue du CEREC là, qui devait venir, bon, les chiffres en cette matière, c'est quand même qu'en gros, depuis quelques années, il y a 50% d'une classe d'âge qui rentre dans l'enseignement supérieur. Qui rentre dans l'enseignement supérieur.
Non, mais pas l'université.
L'enseignement supérieur, non, mais attends, je veux dire, c'est ça qui compte. Hein. Non, ce qui est important aussi, c'est que quand tu regardes, quand on fait les enquêtes génération, il y en a 38%, il y en a 20% qui sortent sans diplôme, il y en a 38% qui sortent à bac plus 2. Donc ça fait 58% qui ne sortent pas ce qui est devenu le niveau normalement de référence maintenant, le premier qui est licence. Et ça traduit quand même le fait qu'il y a de gros problèmes de soi-disant démocratisation. Dernier point sur les licences. Les gens qui sortent avec le diplôme de licence, il y en a 30% aujourd'hui qui sortent avec des licences professionnelles. Donc vous voyez un petit peu, c'est ça le paysage. Et évidemment, tous ces gens-là, c'est pas le public qui devrait faire des études longues. Du moins, c'est ceux qu'on n'engage pas dans des études longues. Parce que ce que je voudrais dire aussi, c'est que dans ce beau système français où, après avoir n'avoir pas été retenu en classe prépa, on va en IUT... si on ne va pas en IUT, on va à la fac. Évidemment, vont en IUT des gens qui pourraient faire des études longues et qui, finalement, reçoivent une formation qui n'aura sûrement pas la possibilité de faire des études longues. Donc, comme gâchis en termes d'usage des ressources, c'est pas mal. Donc, c'est ça le problème devant lequel on est. Hein. Donc, moi, je trouve pas qu'il y ait eu une véritable démocratisation. On a vendu des assignats. Tout ça, d'ailleurs, en plus, stagne. Et c'est ça, le vrai problème. Hein. Et comme le disait Jean-Paul il y a un instant... Tant qu'on n'aura pas autorisé chacun à sélectionner les étudiants en fonction des enjeux de sa propre formation, eh bien, on aboutira à ce que disait d'ailleurs Alan au début, c'est-à-dire que, évidemment, on sélectionne personne, du moins, on a une sélection féroce, évidemment, dans les classes préparatoires, et puis on a une sélection non moins féroce qui est sur une base sociale à la fin de la première année. Et donc, ça, il faudrait qu'on soit collectif. Que collectivement, on s'engage dans une bataille de ce type. Quand vous pensez qu'on en est encore à ne pas vouloir faire de sélection à l'entrée du M1. Hein, donc on peut à l'entrée du M2, mais pas à l'entrée du M1. Ce qui d'ailleurs crée déjà des distorsions avec des gens qui sortent au niveau du M1 alors que le master devrait être un diplôme plein. Donc si on ne s'engage pas fortement là-dedans, eh bien ça ne marchera pas. Simplement, soyons clairs, nous sommes des économistes. Ben, ça veut dire que si on autorise les universités à faire de la sélection, il y a un certain nombre de rentes qui vont disparaître. Hein, je ne fais pas de dessin.
Avant de donner la parole à Patrick et à M. Pradier, juste sur les chiffres. Ben, tes chiffres sont justes, les miens aussi. Mais je les ai cités, les miens, pour qu'on soit attentif à ce problème, c'est que l'université est sur le total une part faible. Ce qui d'ailleurs n'est peut-être pas choquant, après tout, qu'il y ait des cursus diversifiés, parce que les besoins de l'économie sont diversifiés aussi. Le problème, c'est de savoir si c'est les bons qui vont à l'université.
Exactement.
Et je dirais même, on est à peu près sûr que ce n'est pas les bons.
Le
phénomène des petites écoles, pourquoi je l'ai cité? C'est parce qu'il est intéressant, le phénomène des petites écoles, dans la mesure où il n'y a eu aucune politique publique pour favoriser les petites écoles. Jamais aucun gouvernement n'a dit « moi, je vais organiser une politique pour qu'il y ait des petites écoles qui préparent à tel ou tel métier ». Ça a été d'une certaine façon une génération spontanée. Ça a été les familles qui, pour un certain nombre de raisons, ont voulu envoyer leurs enfants là. Il y a des écoles qui se sont créées parce que ça répondait à ce besoin, y compris d'ailleurs pour des raisons financières, comme ça a été dit, parce qu'il y en a pas mal qui sont rentables de ces petites écoles. Donc ça montre qu'il y a une difficulté, et cette difficulté explique entre autres d'ailleurs pourquoi le chiffre que j'ai cité, non seulement il est difficile à trouver, bien qu'il soit parfaitement exact, mais même il est absent du débat public, parce que c'est un problème délicat, ce problème de savoir si ceux qui vont à l'université sont bien ceux qui devraient y aller ou pas. Je suis assez d'accord de ce point de vue-là avec ce qu'a dit Jean-Paul. Hein. Patrick.
Juste pour répondre, je me suis sans doute mal exprimé, Jean-Paul. Ce que j'avais à l'esprit, ce ne sont pas les gens qui font de l'économie dans les banques, c'est les gens qui sont dans la banque. Si les gens vendent des actions, vendent des produits financiers compliqués, vendent des fonds d'investissement en infrastructure, et ces gens-là ont besoin de savoir faire de la bonne économie. Donc ce n'est pas les économistes. Les économistes, on espère qu'ils savent faire un peu d'économie, mais c'est beaucoup de gens dans une banque qui ont besoin de faire de l'économie pour comprendre ce qu'ils font professionnellement.
Oui, là aussi, je rajoute un mot. Les gestionnaires de fonds, par exemple, qui sont très nombreux dans les institutions financières, les gestionnaires de fonds, à mon avis, ça devrait être des gens qui sont formés dans les universités d'économie. C'est un travail pour lequel la meilleure formation, c'est encore celle-là. Monsieur Pradier.
Oui, je voudrais revenir sur la relation entre, sur l'articulation donc entre sciences économiques et sociales au lycée et à l'université. Jean-Luc dénonçait à l'instant le gâchis du premier cycle, où on envoie vers les premiers cycles universitaires courts, enfin les IUT font quand même partie des universités, des bons étudiants qui ensuite n'ont pas vocation à continuer, alors qu'on envoie ceux qui sont les plus en difficulté vers des études abstraites où ils sont moins encadrés. En fait, le gâchis, il commence dès le lycée, puisque si on regarde ce qui se passe, on a un bac général. Avec des sciences économiques et sociales, un bac général avec une filière ES qui ne débouche pas sur un premier cycle universitaire, puisque le premier cycle universitaire qui correspond à peu près, c'est sciences économiques et gestion. Mais ça correspond pas à peu près, puisqu'on voit bien que ça correspond pas bien. En revanche, il y a aussi de l'enseignement de sciences économiques et gestion, mais c'est dans les bacs technologiques. Hein, les agrègues de sciences économiques et gestion, le CAPET de gestion, c'est de l'enseignement technologique. Et donc, qui ne débouche pas vers un enseignement supérieur long. Et qui ne va pas vers les facultés de sciences économiques et de gestion. C'est-à-dire que le lycée permet d'obtenir un bac qui est en principe le premier titre universitaire, et ce premier titre universitaire n'est pas en adéquation avec le premier cycle universitaire. Il y a là une nouvelle source de gâchis, on peut améliorer. Bon, si on en revient à cette histoire de massification ou pas massification du premier cycle, de l'université. Ça fait longtemps qu'à l'université, on essaye de sélectionner et qu'on nous donne les moyens de sélectionner de manière plus ou moins déguisée. On a créé les magistères il y a 20 ans, on a fait les bidiplômes il y a une dizaine d'années. Et effectivement, ce dont on se rend compte, c'est que ce avec quoi on attire, ça n'est pas l'économie. C'est-à-dire quand on a créé, par exemple, les bilicences droit-économie ou droit-histoire de l'art, etc., ben, on a attiré des bons étudiants en premier cycle, non pas avec de l'économie, en droit-économie, mais avec du droit. Parce que le droit était déjà en partie sélectif, parce que le droit était un monopole universitaire. Oui, ça, on le sait très bien, malheureusement. De la même façon, les magistères, on sait très bien qu'ils récupèrent des étudiants de prépa, des étudiants qui sortent de prépa. Mais ça rejoint ce que disait Alan tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est dans un système qui est d'une hypocrisie extrême. Parce qu'on fait comme si tout se valait et comme si on ne sélectionnait pas alors qu'on sélectionne par derrière, etc. Peut-être qu'on pourrait avoir le courage de faire ce qu'on dit et de dire ce qu'on fait.
D'autres interventions? Oui, monsieur Béton.
Deux points. Le premier, c'est que par rapport à l'échange qui vient d'avoir lieu entre Laurent Tarillon et Jean-Luc Cafard. Je pense que nous avons une fenêtre d'opportunité en ce moment pour dépasser un certain nombre de faux débats entre l'enseignement de l'économie dans le secondaire, auquel je participe, et ce qui se passe dans l'enseignement supérieur. Hein. Je pense par exemple que l'engagement très fort de l'AFSE dans le cadre de la réforme des lycées pour soutenir l'enseignement des sciences économiques et sociales est quelque chose de tout à fait important. Et je pense qu'on devrait saisir cette opportunité pour dépasser de faux débats. J'entendais ce matin, finalement, moi, comme Jean-Luc aussi, j'ai un peu renoncé à intervenir un peu par lassitude. J'étais quasi totalement en désaccord avec ce que disait Michel Pébrot, mais j'ai été frappé de voir qu'il y avait des mouvements divers dans la salle quand il a parlé de modélisation. La modélisation, c'est quelque chose qui n'est pas du tout scandaleux. Et d'ailleurs, je repensais en écoutant ce matin un livre de Bernard Valizère sur la science économique où il évoquait les différents types de modélisation. Et parmi les types qu'il évoquait, il y avait ce qu'il appelle la modélisation iconique. Ben, dans tous les manuels de sciences économiques et sociales, il y a des schémas de synthèse fléchés qui correspondent à ce que Valizère, qui n'est pas un fantaisiste généralement, appelle la modélisation iconique. Donc je pense qu'il y a un certain nombre de faux débats à dépasser. Et je crois qu'un certain nombre de questions que soulevait André Cartapanis sur le recrutement des facultés de sciences économiques, on pourrait contribuer beaucoup à dépasser un peu ça dans la gestion des effectifs. Le deuxième aspect, c'est sur la question, alors là je vais prendre ma casquette de professeur de classe préparatoire, la question de la massification. Premier élément le plus important, je crois, ce que rappelait Jean-Luc Gaffard à l'instant, on est à 38% d'une classe d'âge à Bac plus 2, l'objectif de Lisbonne c'est 50, il nous manque 12 points, ces 12 points ça se fera avec des gens nouveaux qui sont encore moins adaptés que ceux d'aujourd'hui à l'enseignement tel qu'il est. Je rappelle que sur le bac général, qui fournit l'essentiel du recrutement, d'où les chiffres de Jean-Michel Charpin, l'essentiel du recrutement de ceux qui vont à l'université, le bac général, on stagne depuis 10 ans. Donc ce n'est pas parce qu'on a distribué à tout va le bac qu'on a des problèmes de recrutement à l'université, on stagne depuis 10 ans. C'est ça la source du problème. Hein. Bon. Alors maintenant, j'en viens à la question des classes préparatoires. Il est vrai qu'il y a un premier problème, il a été aussi évoqué hier dans la session qu'animait Antoine Dautume, qui est la question de la sélection. Bon, je ne vais pas l'aborder, c'est une question extrêmement délicate et extrêmement compliquée, etc. Je voudrais aborder les deux autres questions. La première autre question, c'est le montant des budgets que l'on alloue pour gérer les étudiants. Et il y a actuellement des budgets qui sont plus élevés pour les élèves de classe préparatoire, pour les élèves des premiers cycles universitaires. Le fait de faire la moyenne et de distribuer la moyenne à tout le monde ne résoudra pas le problème. Le problème, c'est que si on veut sortir des taux d'échec faramineux qu'évoquait Alan Kierman, il faut que le pouvoir politique prenne conscience du fait, Baudelot et Establé l'ont expliqué il y a 25 ans, que l'accroissement des taux de scolarisation se fait à taux marginal fortement croissant. Et que plus on recrute dans des gens qui sont moins héritiers, plus il faut dépenser en effort pédagogique, en innovation, en encadrement, etc. Donc de deux choses l'une. Ou on dit, on prend au sérieux l'objectif de Lisbonne, et alors il faut dire, il faut faire des moyens. Moi, j'avoue que lorsque nous avons... Moi, j'ai un lycée qui ferme à 8 heures tous les soirs, c'est plein de monde jusqu'à 8 heures, et les étudiants, qui sont effectivement des privilégiés du point de vue de la culture, bénéficient d'entretiens individuels, ce qu'on appelle l'école, où on teste leurs connaissances, où on les pousse à travailler, etc. Évidemment, il n'y a pas l'équivalent à l'université, donc il faut se poser cette question. Donc ça, c'est l'aspect moyen, je pense qu'il est central. Ce n'est pas parce que l'université se mettra à sélectionner, si on ne change pas les moyens, et si on continue à dire il faut 12 points de plus d'une génération à recruter, où est-ce qu'on va les mettre, ces gens-là? Quelle formation on va leur donner? Et le dernier point, c'est la pédagogie. Je ne vais pas être très long, mais pour prolonger ce que disaient Jean-Luc et Vladimir Andreev sur les 12 heures ou les 20 heures, moi j'enseigne, comme je peux le faire, la science économique et la sociologie. Je dispose de 6 heures par semaine pendant 34 semaines, plus des heures de colle.
Oui.
Oui, Jean Fleury, inspecteur pédagogique, sciences économiques et sociales. Alors là aussi, c'est le second degré, désolé.
Bon, mais je pense qu'on a les mêmes problèmes et qu'il faut qu'on traite les problèmes ensemble. J'abonderai dans le sens de ce que disait Alain Béton, et c'est un moment, ça fait un moment que je voulais le dire, donc c'est pour ça que je me permets de reprendre la parole. Mais je pense que tout le problème qu'on a, auquel on se confronte, c'est un problème de forme scolaire, selon l'expression de Guy Vincent, qui était professeur de sciences de l'éducation ici à Lyon. C'est-à-dire que, là, en fait, vouloir sélectionner, c'est ce que dit Alain Béton, c'est où est-ce qu'on mettrait ceux qui ne seraient pas dans la sélection. Et on peut remarquer quand même une sorte d'aberration, c'est qu'on met là où il y a le plus d'encadrement les élèves qui en ont le moins besoin. Bon. Donc, et on le met là où il y a le moins d'encadrement les élèves qui en auraient le plus besoin. Donc effectivement, c'est sans doute pas un problème de sélection, c'est un problème de qualité. Excusez-moi, c'est un mot sans doute... qui peut être reçu avec un certain refus, mais c'est un problème de qualité. Quels sont les standards de qualité dans notre enseignement? Et c'est quand même, ça interroge beaucoup, parce qu'il y a quand même à peu près 80% d'une classe d'âge, entre 60 et 80% d'une classe d'âge qui a le baccalauréat, et qui après se trouve en fac avec une incapacité à s'organiser ou à continuer. Et ça veut bien dire que dans le lycée, on n'a pas formé suffisamment une capacité à être robuste pour continuer des études. Donc le système des prépas et des petites écoles, d'ailleurs, est un système qui masque la réalité. C'est-à-dire qu'on a fait un système de protectionnisme qui fait qu'on continue à pouvoir faire avancer ceux qui peuvent avancer. Et puis le reste, eh bien, c'est un système de libre-échange généralisé qui ne mène à rien, sauf si on le change radicalement, mais sans sélection. Changer la forme scolaire, donc changer la façon d'enseigner. C'est bien ce qui est en jeu aujourd'hui, je pense.
Merci. Alan Kerman.
Je voulais juste revenir sur... Est-ce que ça peut...
Oui, je crois.
Sur un, deux points qui ont été soulevés. J'aime pas beaucoup le mot massification, parce que tout de suite, ça implique que ceux qui arrivent, c'est suite à cette augmentation de normes, sont dans un certain sens inférieurs. Il y a tout de suite une nuance, ou peut-être même pas une nuance, une implication directe. Moi, j'aurais dit plutôt ouverture. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas du tout préparé pour cette ouverture. C'est-à-dire qu'on ne fait pas des choses correspondant aux besoins de ces gens qui arrivent. Et donc, on ouvre et on garde nos anciens critères quant à ce qu'on enseigne et comment on forme, etc. Je pense, moi, je ne voulais pas suggérer que, quand j'avais dit différencier les universités, qu'on a un genre de hiérarchie sur une dimension. C'est-à-dire qu'il y a simplement des mauvaises jusqu'aux très bonnes universités. Non, les universités sont différentes. J'envisage un paysage d'université où les universités sont très différentes, où l'étudiant peut... décider que j'aimerais bien aller là parce que la formation qu'il propose me convient. Par exemple, je vous donne l'exemple de l'Angleterre, qui est loin d'être un pays parfait. Mais là, les étudiants, d'une façon centralisée, qui n'est pas beaucoup appréciée par nos amis américains, mais remplissent un formulaire où ils mettent les universités où ils veulent aller avec les formations qu'ils veulent faire. L'université vous dit, à ce moment-là, dépendant de vos notes au bac, vous allez être admis ou non avec tel et tel critère. Vous sélectionnez vos universités, les universités vous sélectionnent aussi, et il y a un genre d'appariement après. Mais le résultat de tout ça, c'est qu'à l'université même, quand on arrive, on pense que tout le monde, essentiellement, le taux de réussite est autour de 90%, vont poursuivre jusqu'à la fin. Donc, on commence à constituer des cursus et tout, avec l'idée que l'étudiant va arriver à la fin. Chez nous, ce n'est pas le cas. On ne pense pas que les étudiants qui arrivent vont arriver à la fin. Donc, on ne construit pas un cursus pour les étudiants qui vont terminer leurs études. Et je pense que là, il y a quelque chose qui manque, apparemment. Et de différencier les universités n'est pas de dire que cette université était inférieure. Et on dit, et je suis d'accord que la recherche est importante pour l'université et pour l'enseignement, mais ce n'est pas le seul critère non plus. C'est-à-dire pour le premier cycle, je vous signale que si vous voulez envoyer votre enfant à l'université aux États-Unis, vous dites, mais quel est l'enseignement le plus cher possible? Où est-ce que je paierai le plus? Je pense que la plupart ici, dirait au Harvard, Princeton, etc. Ce n'est pas vrai. C'est les liberal arts colleges qui terminent après 3 ans, 4 ans, et où il n'y a pas de recherche, mais une formation, une culture assez générale avec beaucoup d'efforts de pédagogie et de culture générale. Beaucoup de ces étudiants après partent dans les grandes universités aussi pour faire des études après. Mais ça veut dire que les institutions qui ne sont pas des institutions où on fait actuellement la recherche peuvent être d'une très grande qualité. Et ce n'est pas nécessairement parce qu'on forme des étudiants avec une culture générale qu'on est moins bon. Donc il n'y a pas une dimension de qualité. On peut en faire toutes sortes de choses. Et d'avoir des formations plutôt techniques, ce n'est pas non plus quelque chose qui est honteuse, et je pense que c'est tout à fait normal. Et un étudiant doit pouvoir dire, mais là, on fait ce qui me convient. Là, on le fait. Et pas, mais je vais à l'université à côté de chez moi parce que c'est tout ce que mes parents peuvent te payer. Et donc là, je vais me trouver avec des gens complètement, avec des goûts et des besoins totalement différents des miens. Je vais essayer de faire l'économie, je ne sais pas ce que c'est. Et à la fin, la plupart ne vont pas réussir. Et ça me semble un système aberrante, mais encore une fois, je suis peut-être trop persuadé par cette idée. Dernière remarque, on parle de petites écoles. Je note que pour faire face au classement de Shanghai, on a dit, mais on ne produit pas assez. Les Chinois ont décidé de classer les universités en fonction du total de la recherche produite. Comment est-ce qu'on peut augmenter la production ? On fusionne les universités, on crée des universités de plus en plus grandes. Et donc, finalement, si on fusionne toute l'université de Paris, on va avoir quand même une université qui est au niveau. Mais le jour où les types à Shanghai décident, mais peut-être il faut le faire per capita, ça ne va pas marcher. Et donc, c'est absurde de dire, mais pour faire face à ça, il faut simplement mettre ensemble. Je serais plutôt pour le contraire. C'est-à-dire qu'au Japon, il y a 500 universités. Une population qui est quand même plus importante que la France, mais 500, c'est beaucoup. Mais les universités sont très différentes les unes des autres. Et je note aussi que si vous regardez les universités qui sont les mieux classées, Shanghai, ils sont tous des petites universités. Princeton, 6 000 étudiants, même Harvard, c'est 12 à 15 000, dépendant si vous comptez les écoles professionnelles, etc. Donc, ce sont des universités qui ne sont pas très grandes. Donc, il ne faut pas que nous, on commence à construire des monstres où on reçoit tout le monde, et puis on dit, oui, mais à l'intérieur de ça, on va faire telle et telle formation. Je pense que ce serait mieux d'avoir des institutions qui ont une identité et où l'université peut dire, mais nous, nous sommes spécialisés dans ce type de formation. Nous avons cette identité. Je pense que de redonner une identité aux universités n'est pas une idée stupide. Et peut-être même un étudiant à la fin va dire, mais je suis fier d'avoir été étudiant à telle et telle université. C'est l'habitude en Angleterre, mais je trouve qu'en France, ce n'est pas le cas. On est allé à l'université à côté et on n'est pas fier d'avoir été à telle et telle institution. Je pense qu'on peut y redonner cette fierté.
Antoine Dautume.
Merci. Oui, juste deux petits éclairages tirés de mon expérience à Paris 1, qui en principe est une grosse université parisienne, ne devrait pas être la plus malheureuse. Bon, qu'est-ce qui se passe en première année où il y a, 800 ou 1000 étudiants? Bon, premièrement, il y en a 200 qui sont inscrits, qui ne viennent pratiquement jamais. On pourrait dire que ce n'est pas très grave, mais ça pèse énormément sur la vie de... Bon, ils viennent un peu aux examens, et on constitue des groupes, ils sont là, ils ne sont pas là, ça pèse beaucoup. Bon, ensuite, il y en a, au moins 300 autres qui, en gros, vont travailler extrêmement peu. Ça, c'est une question. Hein. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si les étudiants sont déçus de ce qu'on leur donne. Je pense qu'il n'y a pas... On fait beaucoup d'efforts. Il y a quelque chose, on vient à l'université, je ne sais pas pourquoi on ne veut pas faire l'investissement, le détour un petit peu pour travailler. Ils sont donc formidablement hétérogènes. Donc c'est tout à fait clair que quand on parle de sélection, c'est pas dire on veut mettre dehors, on veut la moitié des gens, etc. Mais c'est qu'on veut orienter les gens. Alors je ne sais pas si, comme le suggère Alan, ça doit être entre des universités, mais à l'intérieur même d'une grande université, il faudrait qu'on puisse orienter les gens et qu'il y ait des filières meilleures, qu'il y ait des filières un petit peu d'élite, pas extrêmement ambitieuse, ça aurait des effets extrêmement positifs sur tout le monde. C'est clair qu'on a maintenant des étudiants qui viennent d'origines différentes, on a beaucoup d'étudiants étrangers qui viennent de beaucoup de pays, évidemment beaucoup viennent d'Afrique francophone, mais beaucoup d'autres viennent des pays de l'Est par exemple, et ils aimeraient qu'on leur propose des itinéraires, des choses. C'est certain qu'il faudrait vraiment changer ça. Et ça, on n'en a pas le droit, on n'y arrive pas. Et même, alors il y a dans la mentalité de beaucoup des universitaires, l'idée que je trouve complètement fausse, qui est, mais non, il faut traiter bien tout le monde, il ne faut surtout pas différencier, etc. Et ça, je pense que l'université est pas loin d'en mourir de ça. Bon, deuxième éclairage, à la fin, tout en haut, il y a quelque chose qui a changé depuis quelques années et qui s'est traduit concrètement par un bouleversement, c'est que avant on parlait de DEA et de DESS, maintenant on parle de master recherche et de master pro. Et ça, c'est absolument catastrophique, parce que de donner l'idée qu'on oppose recherche à professionnel, bon, moi j'ai toujours pensé que ça n'avait aucun sens, mais ce qui se passe, c'est que les entreprises, pour autant que je le vois, sauf exception très rare, merci Patrick, elles n'ont pas envie d'embaucher des étudiants qui ont des master recherche. À la limite, si on pousse un peu, ils ont l'idée que des étudiants de master recherche qui viennent chez eux, c'est des gens qui sont en situation d'échec. Ah bon, vous avez essayé de faire de la recherche, vous n'avez pas réussi et maintenant vous voulez venir dans les entreprises. Donc je pense que c'est absolument catastrophique. L'effet a été massif. Je veux dire, je ne sais pas, les statistiques, Pierre-Charles le saurait mieux, mais le nombre de candidats au master, aux 12 master recherche de Paris 1 a chuté dans des proportions énormes. Bon, alors il y a le master, l'école des économie de Paris qu'on crée, c'est un peu un îlot finalement, où on arrive à sauver un recrutement de qualité, mais tout le monde souffre quand même beaucoup. Hein. Bon, et donc face à ça, il y a des master pro. Alors j'en ai pas, j'ai honte de dire, j'en ai pas une connaissance personnelle, parce que j'ai jamais enseigné, c'est comme ça. Il y a évidemment beaucoup d'hétérogénéité, parce que certains des meilleurs étudiants, s'ils ont arrêté de s'orienter vers les master recherche, ils vont vers les master pro, donc j'ai tout à fait sûr qu'il y a des très très bons étudiants, mais il y a aussi ce qui a été évoqué, que de temps en temps, quand on voit ce qui est fait dans certains master pro, on a l'impression c'est peut-être pas bac moins 2, mais c'est bac plus 1 ou bac plus 2, quoi, ou quelque chose comme ça. Et donc là aussi, bon, je sais pas, là, comme il y a un peu plus de différenciation, je pense que petit à petit, eh ben, il va y avoir un peu de connaissance, un peu de concurrence, et peut-être que ça s'améliorera un peu. Mais bon, l'université a beaucoup besoin de bouger dans son mode de fonctionnement, si on veut un peu s'en sortir.
Merci.